Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.
Chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur l'antenne de Shalom Bourgogne et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Guichard de la Voix du Harcèlement, une association importante, vous allez comprendre pourquoi, et de Madame Christelle Fichot, autre association très importante sur la place qui s'appelle Inestimable TND. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Donc que l'une d'entre elles commence à présenter rapidement son association et pourquoi elle existe, elle est aussi importante.
Alors, la Voix du Harcèlement, c'est une association qui consiste à faire une passerelle entre les enfants harcelés, leur famille et la justice, en fait, entre guillemets. On travaille en collaboration avec la référente départementale du harcèlement scolaire. Donc quand un cas nous est signalé, on prend contact avec elle pour être sûr qu'elle soit informée du dossier. Et si tel est le cas, on lui signale que les parents en fait nous ont contactés pour que la mission, on va dire, se poursuive, à savoir que c'est la référente départementale qui va en fait faire le lien entre l'établissement où a lieu le harcèlement et la famille. Voilà. On fait également le lien avec France Victime 21 parce qu'il est des fois où les faits sont vraiment trop graves et que le dépôt de plainte est inévitable. Donc dans ce cas-là, on renvoie vraiment les familles vers France Victime 21 où elles vont être prises en charge par un juriste, par une psychologue également. Et généralement, les choses se débloquent assez vite dans le sens où France Victime va être en contact directement avec le procureur de la République et va faire des réquisitions. Voilà. Et quand France Victime appelle pour dire voilà, on veut des éléments, c'est sur réquisition du procureur. Généralement, il n'y a pas trop de soucis. Les choses bougent assez rapidement. On est là également pour faire de l'information et de la sensibilisation au harcèlement scolaire. Alors, on sensibilise bien évidemment les élèves à tout âge, puisque récemment, je suis intervenue au lycée Carnot. Mais également, en fait, cette année, on va essayer de sensibiliser les parents pour leur donner la bonne attitude à avoir en cas de harcèlement. Alors, on va dire dans les deux cas, c'est-à-dire que c'est au secours, mon enfant est harcelé, au secours, mon enfant est harceleur. Voilà. Donc, la bonne attitude, la bonne position à prendre en tant que parent. Et le lien s'est naturellement fait, en fait, avec Inestimable parce qu'on s'est aperçu que les enfants que l'on a rencontrés et qui étaient victimes de harcèlement étaient tous porteurs d'un handicap visible ou invisible.
Peut-être avant de donner la parole à Madame Fichot de l'association Inestimable, malheureusement, les événements autour de nous continuent à tous les jours à nourrir l'inquiétude et à montrer l'importance et la puissance du harcèlement dans notre pays. C'est pas nouveau, bien sûr. Les réseaux sociaux semblent avoir amplifié. Mais pas que, parce qu'avant les réseaux sociaux, ça existait. En tout cas, il n'est pas sûr que ça ralentisse, peut-être même au contraire, même s'il y a des chiffres, mais les chiffres correspondent à des plaintes et à des réalités mesurables, mais on ne peut pas tout mesurer. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est du rapport entre des associations comme la vôtre, qui sont quand même très importantes, justement, et le monde, par exemple, scolaire, où on sait que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir la bonne action au bon moment. Entre l'enfant harcelé et l'enfant harceleur, la question des parents, bon, la question aussi de la justice qui peut mettre son nez évidemment dans les affaires logiquement. Est-ce que vous sentez une évolution des institutions et des mentalités propice à une évolution positive ?
Oui. Oui, quand même, parce que le rendez-vous qu'on a eu avec le rectorat a été extrêmement, informatif, puisque la référente nous a expliqué que c'était des cas qui lui remontaient, alors soit directement par l'établissement, par le biais des référents phares, soit en fait par le biais effectivement d'associations telles que la nôtre, soit par le 3018. Voilà, et aussi le regroupement des informations, les changements d'établissement. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a un changement d'établissement qui semble un petit peu, on va dire, louche, entre guillemets, mais qui a une motivation un petit peu autre qu'un déménagement, une séparation de parents, qui sont des motifs, on va dire, de changement d'établissement complètement logiques pour un enfant. Quand un enfant change d'établissement sans vraiment qu'il y ait ce genre de motif, elle va approfondir et creuser. Effectivement, c'est un travail à plein temps. Voilà, il faut savoir que la référente départementale, enfin du moins sur Dijon, est à temps plein sur le sujet. Donc elle a extrêmement de travail, elle se fait même parfois épauler par des collègues, puisque toutes les informations lui reviennent. Et par contre, il reste toujours ce domaine, en fait, on va dire, il y a tout de même un trou dans la raquette qui est tout ce qui est périscolaire, où bah, malheureusement, ils n'ont aucune visibilité là-dessus.
Oui, et puis l'actualité aussi, là, évidemment, nous impose d'observer et d'avancer sur le sujet. En tout cas, vous, dans une autre émission, vous êtes intervenu, vous avez parlé d'auteurs, de gens qui font de la recherche aussi pour améliorer les interventions,
oui.
Rassurer les parents, traiter la question du harceleur, parce que, évidemment, il y a un agresseur, il y a un agressé, on est bien d'accord, mais l'agresseur, si on s'en occupe pas, il continuera à agresser, mais de surcroît, il est possible que l'agresseur ait d'autres problématiques à traiter. Et je pense que c'est important ce que vous nous avez dit, et vous nous avez conseillé notamment les lectures d'une autrice très intéressante, Madame Piquet. Emmanuel oui. Piquet, qui donne beaucoup de solutions au sens méthodologique, de méthodes pour travailler sur ces questions-là. En tout cas, malheureusement, je comprends votre façon positive de voir les choses, mais on a beaucoup de retours de situations où il se dit quand même souvent, oui, ben c'est normal, à cet âge-là, les garçons, ils se cognent un peu, ils se tapent. Ça fait partie de l'évolution normale, des rapports de force et du fait de grandir. Donc il y a parfois un déni où on sous-estime parfois la puissance et la violence du harcèlement, je le crains.
Oui, tout à fait. Oui, non, on sait qu'il y a encore énormément de travail sur le sujet pour que ça rentre dans les mentalités. Se dire que non, ce n'est pas normal, voilà, et que en fait, eh ben, le harcèlement peut aussi provenir d'un élève qui est en souffrance. C'est-à-dire que le harceleur, en fait, typiquement, ça peut très bien être un enfant qui a été harcelé parce qu'il avait des troubles du neurodéveloppement, voilà, et qu'il en a énormément souffert, et qu'il se sert en fait de ça pour se protéger. C'est une manière pour lui de se protéger, pour ne plus subir de harcèlement. Et malheureusement, on a un petit peu trop tendance à maintenant aussi dire « Ah oui, mais les troubles du neurodéveloppement, plus ça va, plus il y en a. Le TDAH, tout le monde a un peu un TDAH. » C'est faux, en fait. Le pourcentage des diagnostics n'a pas évolué depuis 30 ans. C'est 5% de la population qui souffre de TDAH. C'est juste la population mondiale qui a augmenté. Et donc, forcément, qui dit augmentation de la population mondiale, dit évidemment augmentation du nombre de personnes diagnostiquées ayant un TDAH. La courbe est proportionnelle, mais le pourcentage reste le même. Et on est encore aujourd'hui face à beaucoup trop, on va dire, de réticence. Les gens ont énormément de mal à intégrer le principe de harcèlement et le principe de trouble du neurodéveloppement.
Vous avez fait le lien avec les enfants qui ont des problèmes de développement, un certain type de problèmes. Madame Fichot, comment vous présentez peut-être rapidement quand même le cœur de votre mission avant de revenir sur les propos de Madame Guichard concernant le lien entre certaines difficultés du développement et le fait d'être harcelé ou d'être harceleur, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Voilà, l'association Inestimable est dans sa quatrième année, voire même cinquième. Elle a été créée par un combat personnel, puisque mes deux enfants ont été diagnostiqués. De là, on se rend compte que on est seul. Seul face au diagnostic, seul face aux troubles, seul face à beaucoup de choses. Et du coup, je me dis, c'est pas possible d'être seul et de tomber dans cet isolement social par rapport à ça. Effectivement, c'est un trouble qu'on parle encore très peu. Il y a toujours il est mal élevé, il devrait avoir plus de punitions, c'est la faute de la mère, elle n'a pas coupé le cordon. Enfin, on en entend toujours des vertes et des pas mûres. Du coup, c'est vrai que voilà, moi, j'ai voulu créer l'association pour aider les familles, parce que c'est plutôt mon caractère, partager les connaissances, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on a tous des droits, mais beaucoup ne les utilisent pas parce que beaucoup ne les connaissent pas. Je considère qu'en 2026, en fait, il est intolérable de ne pas être au courant de ses droits, et d'autant plus quand il s'agit des enfants. Donc voilà, et de pouvoir échanger avec d'autres parents et se dire on n'est pas seul, parce que c'est très dur. Donc voilà, tout ça a découlé d'un vécu personnel. Je savais qu'il y avait du travail à faire, mais je m'étais dit que pas forcément autant. Ça a été très très vite, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et je compte plus lâcher aujourd'hui. Avec le harcèlement, effectivement, on se rend compte que on retrouve beaucoup de neuroatypiques quand même. Mon fils moi-même s'est fait harceler. Et c'est vrai que c'est très compliqué à voir. On a toujours le problème de comprendre le trouble du neurodéveloppement et du harcèlement. Et trop souvent, t'étais agité, t'as cherché aussi. Non, c'est pas bon. Il était agité, mais il a pas cherché. Enfin, il y a un moment, il faut remettre les points sur les i et les barres sur les t. Il faut écouter ses enfants, en fait. Il faut arrêter que l'adulte n'écoute pas ses enfants. On s'en rend compte aujourd'hui avec l'information, où des jeunes se suicident quand même facilement. On en a de plus en plus, je ne sais pas si on en a de plus en plus, mais en tout cas, on en entend de plus en plus parler. Et les réseaux sociaux sont dramatiques. Avant, on n'avait pas de réseaux sociaux, on avait quand même du harcèlement et machin. Mais on va dire que quand on partait de l'établissement, le harcèlement ne nous suivait plus. Il revenait le lendemain parce qu'on retournait à l'école. Aujourd'hui, on quitte l'école, mais on emmène quand même avec les réseaux sociaux le harcèlement jusque chez nous. Et c'est là où c'est dramatique, en fait.
Alors, peut-être, Mme Fichot, nous dire en quelques mots ce que sont ces troubles du neurodéveloppement pour nos auditeurs et auditrices, et puis nous redire aussi que inestimable, pourquoi, et TND, parce que
alors,
nous
TND,
ne sommes pas tous des spécialistes,
c'est
évidemment.
TND, c'est le trouble du neurodéveloppement.
Très bien.
Et dans le trouble du neurodéveloppement, on va retrouver le TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout ce qui est 10, alors maintenant, c'est les troubles des apprentissages, mais les gens connaissent plus dyslexie, dyscalculie, dysgraphie,
dyspraxie, dysphasie
les troubles du spectre de l'autisme qui sont très larges puisqu'on a de l'autisme sévère à de l'autisme Asperger et avec un spectre. Mais bon, chaque enfant, je crois qu'il en soit, est unique, même s'il a le même trouble, ou adulte.
Donc, de ce fait, ces jeunes sont un peu décalés, sont un peu en difficulté.
Ils n'ont pas forcément les interactions sociales. Ils sont, on va dire que un écureuil. Alors, je rigole parce que la dernière fois, je discutais avec quelqu'un. Je fais, oh, il y a un écureuil. Bon, je repense à Mélanie Jeannodin puisque c'était elle qui m'avait dit. En fait, on arrête parce qu'on voit un truc et c'est ça, en fait. Vous êtes feignant, vous savez pas lire, alors que les lettres se mélangent, les chiffres aussi n'ont aucun sens.
Le rapport au temps, au temps n'est pas le même.
Le temps n'est pas le même et les rythmes d'apprentissage sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on veut mettre tout le monde dans les mêmes cases et apprendre à la même vitesse, et ça, c'est impossible. Tout le monde n'apprend pas à la même vitesse, et c'est pas pour autant que ça en fera des chômeurs ou des gens qui n'auront pas de travail. Ils sont souvent bien plus manuels que les autres. On essaie de sensibiliser, d'informer, d'accompagner.
Le point administratif, oui.
Parce que comme Annabelle le disait, les dossiers MDPH, ce sont les croix à la bannière et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de familles qui ne font pas de demande de reconnaissance. Mais ces enfants-là vont devenir des jeunes adultes qui vont rentrer dans un milieu de l'emploi et qui, du coup, ça va être très brutal. Et là, il va falloir des reconnaissances et des choses, mais on va entendre « Pourquoi vous n'avez pas demandé avant ?»
Il y a un ras-le-bol administratif qu'on peut saisir, parce qu'on connaît tous ce problème, en plus des plateformes numériques aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi toujours quelque chose qui est très compliqué, qui est le décalage, la honte, le malaise ? Et parfois, le sentiment d'avoir été jugé comme parent, parce que souvent, quand on va très vite, on dit que c'est de la faute, entre guillemets, des parents qui n'ont pas su accompagner leur enfant.
Je ne sais même pas si c'est une honte. C'est vraiment, vraiment une lourdeur administrative.
D'accord.
On passe notre temps à faire des dossiers, à faire des rapports. parce qu'on a refusé les droits. Les droits sont dans les textes de loi, on ne les applique pas, et ça, pour moi, c'est inconcevable. On a déjà des enfants qui n'arrêtent pas. Si sur une journée de 8 heures, vous en passez 3, rien qu'à faire ça, vous n'avez plus d'énergie. Donc, en fait, et puis, c'est plus on nous épuise, plus on pense qu'on va lâcher. Et du coup, ça fait aussi des économies. On ne va pas se cacher.
Après, il faut savoir aussi que y a cette tendance à beaucoup compenser et à beaucoup camoufler. Je prends un cas personnel. Ma fille, 20 ans, on vient d'apprendre qu'elle est dyslexique, dysorthographique, parce que les deux vont de pair, en fait. On ne s'est aperçu de rien, aussi bien nous en tant que parents qu'au niveau enseignement, personne ne s'est aperçu de rien tout au long de sa scolarité. Donc voilà, et c'est juste parce qu'elle a compensé, elle adorait lire, donc elle a compensé en fait sa dyslexie, sa dysorthographie par la lecture, elle a fait sa rééducation toute seule comme une grande, voilà. Mais malgré tout, il reste quand même en fait, notamment à l'université où il y a le projet Voltaire, une dyslexique dysorthographique face au projet Voltaire, voilà, vous la retrouvez.
C'est un sport, c'est un marathon.
Oui, c'est un combat, on a mobilisé toute la famille. Voilà, toute la famille s'est mobilisée pour l'aider. Du coup, voilà, il y a la maman qui s'y est mise, il y a la grand-mère qui s'y est mise.
Peut-être un mot sur le projet Voltaire, dont j'ignore tout.
Ah, le projet Voltaire, en fait, c'est un gros contrôle, on va dire, de français, qui porte aussi bien sur la syntaxe que sur la grammaire, que sur la conjugaison, enfin, ça englobe le français vraiment dans les grandes largeurs. C'est... par exemple, la différence entre suggestion et suggestion. Voilà, quand est-ce qu'on emploie éponyme, quand est-ce que... Voilà, donc c'est extrêmement lourd, en fait.
Alors, ce contrôle sert à quoi ? C'est pour...
Alors, je sais qu'ils sont notés, je sais qu'ils sont notés là-dessus, parce que...
Ah, dans le cadre d'une formation ?
Même pas.
Si on savait exactement à quoi ça servait, je pense que ça serait déjà pas mal.
Voilà.
Mais c'est surtout que ça met plutôt des jeunes en difficulté. Aujourd'hui, moi, vous mettez ça, je pars en courant, quoi. Étant moi-même dyslexique, dysorthographique, si on avait encore le à quoi ça servait et faire quelqu'un médecin, et encore, maintenant, ils ont les secrétaires et les dictaphones. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on arrive à adapter... sans savoir...
Il y a des solutions.
Bon, il y a des solutions. On ne fait que ça, d'adapter tous les jours.
Revenons à notre propos initial, qui était celui du lien entre ces problèmes et le harcèlement. Peut-être comment nous décrire, avec un ou deux exemples, comment ça peut se passer et pourquoi, finalement, les enfants se retrouvent dans une situation très délicate, plutôt comme harcelés que harceleurs, j'imagine, mais enfin...
À harceleur, moi je pense qu'on retrouverait aussi, pour moi je pense beaucoup, peut-être où il y aurait des troubles du neurodéveloppement, je pense. Pourquoi ? Parce que il y a aussi, si je veux des copains, je vais penser au cas de mon fils en fait. Moi on est capable de lui dire, si je te donne un Twix, tu peux aller chercher le ballon et dire que c'est toi qui l'as lancé. Donc en fait, s'il est capable de ça, bah, si je te donne 5 euros, est-ce que tu es capable d'aller emmerder l'autre qui est plus loin ? Donc je pense qu'il le ferait
pour avoir
des amis,
pour
ne plus
place,
être
quoi.
Isolé, ne plus être seul à aller manger à la cantine, la peur d'aller aux toilettes et se faire mettre la tête dans les toilettes parce que c'est un jeu qui est très nul, hein, mais c'est un jeu de collège. Donc je pense que dans les deux côtés, je pense que ça soit harceleur ou harcelé, il y a quelque chose qui va pas. Et dans les harceler, c'est la honte de dire je suis pas capable de me défendre. Moi, j'ai rien vu. On n'a rien vu à la maison, hormis des propos vous m'aimez pas, je vais me suicider.
Les enfants le cachent, quoi. Globalement, ils le cachent comme ils peuvent, mais ils le cachent.
Ouais, ils arrivent à le cacher. Je trouve que voilà, ils ont, je pense, ce problème au rapport à l'adulte. Où la confiance à l'adulte, ils ne l'ont pas. Dans des grands collèges où ils sont énormément, ça brasse, ça va vite, on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps. Et c'est un vrai sujet qu'il va falloir, je pense, prendre à bras le corps comme le reste.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est, je ne dis pas que c'est nouveau, mais ça devient flagrant et il faut aujourd'hui peut-être... Alors, est-ce que vous avez des liens pour l'instant avec le monde de la recherche côté science ou côté pédagogie?
À 180, commence de faire plusieurs en fait, publications de choses qu'ils ont mis en avant en tant que psychopraticien et par rapport à des études qui ont été faites, voilà, notamment par rapport au harcèlement scolaire, par rapport à d'autres sujets. Donc, c'est toujours très intéressant de voir que... ils avaient raison sur certains points. On ne dit pas qu'ils ont raison sur tout, mais voilà. Je sais que, voilà, pour en avoir discuté avec, avec eux, et d'ailleurs, on a encore une conférence avec eux bientôt, on est, en fait, la voie du harcèlement est assez complémentaire, parce que nous, en fait, on a les bases juridiques. Eux ont les bases psychologiques. Et parfois, c'est bien de rassurer l'enfant, en fait. Hein, c'est une psychopraticienne hein, avec qui on a échangé pendant plus d'une heure, qui disait, en fait, effectivement, c'est bien, nous, on est là, on rassure l'enfant. Mais si on n'arrive pas à rassurer sa famille, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, notre thérapie. Parce que l'enfant, c'est une éponge, il absorbe tout. Il sent bien que sa famille est tendue, que ses parents, c'est hyper tendu à la maison. Et le fait de pouvoir rassurer les parents par le biais d'un cadre juridique, de dire, mais attendez, il y a 3 codes qui régissent le harcèlement scolaire. Donc, dans le cas de votre fils, vous pouvez faire valoir tel manquement à tel article de tel code. C'est aussi, enfin, ça leur paraissait assez important... dans le sens où, effectivement, c'est très terre-à-terre, très rationnel, en fait. On va apprendre à l'enfant à se défendre par l'autodérision. Les parents, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. On ne peut pas, enfin, voilà, on peut pas leur apprendre l'autodérision pour minimiser les choses. Ce n'est pas possible. Donc, les parents, on va leur dire, mais vous pouvez agir de telle façon. Et puis, vous pouvez aussi lui donner ce droit au répit. En fait, que pour l'instant, n'est pas, on va dire, accepté. Mais à quel moment, en tant que parent, on va laisser son enfant dans un environnement toxique? On ne peut pas, ça fait partie de nos devoirs de parents que de protéger notre enfant. Donc, on va lui accorder un droit, en fait, au répit. Alors, bien évidemment, il faut que ce droit au répit soit le plus court possible. Et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir mobiliser toutes les forces possibles autour de soi, que ce soit les psychologues, les psychopraticiens, le personnel de l'éducation nationale, pour que l'enfant puisse revenir dans un climat à minima serein en classe. C'est-à-dire que on puisse lui garantir, dire « Écoute, voilà, tu peux revenir maintenant parce que on a besoin de t'entendre. Déjà, on a besoin de t'écouter, d'écouter ce que tu as à nous dire. Le plan phare a été déclenché sur toi, donc il y a un point de vigilance qui est mis sur toi. Donc si jamais on vient te rembêter, n'hésite pas à venir nous le dire, voilà. Et nous, on agira en conséquence. Mais tout en préservant en fait ce côté anonymat qui fait qu'effectivement, l'enfant ne sera pas stigmatisé. Voilà. On va lui dire, écoute, on a besoin d'entendre ta parole. Les adultes référents au collège vont lui dire, on a besoin d'entendre ta parole. On a besoin d'entendre ce que tu as à nous dire, ce qui s'est passé. Sache que le protocole a déjà été déclenché et qu'il y a déjà eu plusieurs auditions. Et ça, ça va permettre de faire comprendre à l'enfant qu'on est là, qu'on l'écoute, qu'on écoute ce qu'il a à nous dire et qu'il est vraiment en sécurité.
Peut-être dire un mot sur le... Vous avez parlé du dispositif phare. Tout le monde ne connaît pas ce dispositif.
C'est un dispositif obligatoire. Voilà.
Dans l'enseignement.
Hein, dans l'enseignement, voilà.
Public aussi, et privé, enfin du...
Oui, les obligations, on va dire, ne sont pas les mêmes en fonction de... Enfin, comment dire... L'obligation du déclenchement du programme phare, voilà, que peu importe l'établissement, qu'il soit public ou privé... c'est une obligation. c'est, comment dire, les deadlines au niveau des informations. C'est-à-dire que dans le public, les choses doivent être mises en place avant une certaine date. Dans le privé, ils ont un peu plus de temps. Dans tous les cas, il y a toujours cet article de loi du Code de l'action sociale et des familles qui dit que chaque établissement qui accueille un mineur est censé assurer sa protection physique et mentale. Donc là, c'est aussi bien les établissements publics, les établissements privés hors contrat,
c'est ça.
Les colonies de vacances.
Mmh. Oui, le périscolaire.
Le périscolaire, ça encadre
les centres
tout.
De loisirs.
Oui, ça encadre vraiment tout. À partir du moment où on accueille des mineurs dans un endroit, l'établissement doit être en mesure d'assurer leur sécurité physique et mentale.
Et que les parents n'aient pas peur d'aller demander les informations pour pouvoir contacter les personnes du plan phare.
Oui.
Très bien. Ça me paraît important pour de faire connaître ce dispositif. Je crois que nous avons déjà évoqué pas mal de sujets. Nous avons fait le lien entre un certain type de population qui a un certain nombre de problèmes de développement et les situations de harcèlement. Peut-être pour vous, quels sont les enjeux on va pas dire pour le pays, mais ici, dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites dans la région, quels sont les enjeux, les étapes que vous souhaiteriez pour la suite, pour avancer et continuer à développer un peu plus la connaissance des dispositifs et surtout leur mise en œuvre?
Alors, pour ma part, moi, l'enjeu, en fait, il va être très simple, mais l'État va falloir qu'il s'en saisisse. C'est vraiment une obligation de formation de toute personne en contact avec des enfants ou des ados sur les troubles du neurodéveloppement, parce que il faut savoir comment réagir et on réagira pas de la même façon devant un dyslexique, quelqu'un qui est 10, mais quelqu'un qui a un spectre de l'autisme ou un TDAH. Le spectre de l'autisme, si vous lui posez la main dessus, ça peut partir en crise ou n'importe quoi. Et si on n'a pas ces codes-là, c'est tout un problème. Et voilà, il y a la loi de 2005, hein, elle a eu 20 ans. 20 ans, elle est encore très loin d'être appliquée correctement. Et 20 ans, c'est beaucoup trop pour appliquer une loi. Aujourd'hui, la formation continue des enseignants, mais pas que, hein, des médecins, parce que les choses changent vite, et des institutions, en fait, où ils n'ont plus le droit de dire aux familles, on ne sait pas à quoi vous avez le droit, non, vous ne rentrez pas dans les cases. On rentre suffisamment dans assez de cases pour que nos enfants aient des droits et que les familles aient du repos, en fait. Donc, il faut arrêter de se renvoyer la balle. Moi, voilà, je suis assez simple là-dessus. Je veux qu'il y ait de la formation, de l'information, de la sensibilisation. Nous, au sein de l'association, on crée des ateliers pour faire comprendre, puisqu'on met dans la peau d'eux. Il y a des institutions où on manque cruellement de professionnels, qu'ils n'aient pas le temps d'aller former des enseignants ou périscolaires ou... ceux qui ont le BAFA, par exemple, ça devrait être une obligation au BAFA, conserve des associations de parents, d'enfants concernés, où on est nous-mêmes, les professionnels de nos enfants, et les médecins sont les professionnels de la science, en fait. Donc, on a des clés, on n'est pas là pour casser les pieds, et que si on nous écoute, on peut permettre un meilleur vivre ensemble.
Dans ce que vous dites, qui est important, c'est que je crois qu'il faut bien séparer des formations qui seraient tiroirs où on va faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de très bon niveau, mais dans un amphithéâtre avec 100 profs ou 100 éducateurs, je ne sais pas. Et puis une formation qui est liée à l'expérience et en lien avec la mise en œuvre du travail.
Moi, je pense que c'est...
Et la réalité du terrain, parce que c'est deux choses quand même très différentes.
C'est plus parlant de mettre dans la peau de quelqu'un, parce qu'on connaît tous plus ou moins...
Et pour agir, avec l'objectif d'agir.
Voilà, on connaît tous plus ou moins ce qu'est la dysgraphie, la dyscalculie, on en a tous plus ou moins parlé. Mais exactement, les gens dire ce que ça représente, quand on les met face à la difficulté, c'est... Ah ouais, c'est aussi... imaginez-vous, l'enfant, lui, c'est 8 heures. Donc le soir, il explose chez les parents.
Et puis avec des retours d'expérience, c'est ce qui manque.
Il faut que ça soit mis en place et qu'il y ait une obligation de formation en continu, en fait.
Et de retour d'expérience et d'évaluation continue.
En tant que parent, on devient, en fait, j'ai envie de dire, professionnel par la force des choses. Parce qu'on a envie, en fait... d'accompagner nos enfants le mieux possible pour leur assurer un avenir correct. Mmh. Donc, effectivement, on apprend à travers nos enfants, à travers les formations qu'on suit aussi, mais qui sont de toute façon en lien direct avec les pathologies de nos enfants. Donc, on devient, entre guillemets, presque, effectivement...
Des sachants.
Des sachants, oui, tout à fait.
On est proche... la problématique de la père aidance, ça fait des liens
exactement.
Entre les professionnels.
On est des proches aidants, et on peut très bien devenir, en tant que proche aidant, un père aidant, pour venir en aide à d'autres familles. Typiquement, je sais que là, moi, je suis en train de me former sur ce qui est guidance parentale, pour accompagner encore plus les familles d'enfants qui ont un TDAH. Ben voilà, typiquement, vous pouvez mettre certaines choses en place assez facilement
Il faut que les parents
pour
soient
votre enfant.
Parce que c'est un épuisement de tous les jours. Donc,
Alors, Madame Fichaud, la Sonestima, parlait de son enjeu, la question de la formation, une formation liée à l'expérience, avec une évaluation, pas une formation purement théorique, sans lien avec la réalité et le travail. Et puis, vous, de l'association La Voix du Harcèlement, Madame Guichard, vous, quels seraient, en quelques mots, les enjeux pour les mois à venir, ici, dans la région ?
Alors, les enjeux, c'est de pouvoir, en fait, sensibiliser les adultes au harcèlement scolaire, parce que ça a son importance aussi. Maintenant, les enfants sont de plus en plus sensibilisés, puisqu'il y a les élèves ambassadeurs au sein des collèges et des lycées. Maintenant, même si les lycées sont en retard, puisque clairement, déjà, le dispositif phare a été déployé un an après les collèges, et que pour l'instant, les outils sont plus adaptés aux enfants des collèges qu'aux enfants des lycées.
Et les écoles alimentaires ? L'école élémentaire n'est pas concernée encore ?
L'école élémentaire est moins concernée. À l'heure actuelle, les plus gros cas, en fait, c'est au collège.
Ouais.
Voilà, le collège est devenu, en fait, une zone, c'est la jungle. Voilà, il faut dire ce qu'il en est, c'est la jungle. Les enfants sont de plus en plus impitoyables les uns envers les autres. Il n'y a plus de respect. L'éveil à l'empathie, on n'y pense même pas, en fait. Voilà, parce qu'on a vraiment cette impression que c'est...
Il ne semble pas que les formations d'EVARS, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, qui étaient destinées à travailler sur la question du relationnel et du respect, dès la toute petite enfance, je n'ai pas l'impression que ça soit mis systématiquement en place d'une manière continue. En tant que parent, par ailleurs,
j'ai questionné
les établissements. On est très loin du compte, me permettre.
Mais même au niveau des formations harcèlement, je connais des directeurs d'écoles élémentaires qui m'ont dit on n'a pas pu aller au bout de la formation, on n'a pas suffisamment de temps.
Oui, il faut donc bien imaginer, c'est ce que disait Madame Fichot, d'autres formes de formation continue.
Et puis c'est obligé parce qu'on a toujours ceux qui vont vouloir aller s'informer parce qu'ils sont sensibles au sujet. Mais ceux qu'on veut, je pense, réellement toucher aussi, c'est ceux qui ne le sont moins et qui nous font de gros dégâts quand même.
Très bien. En tout cas, c'est une première étape dans nos échanges à la radio avec vous. Donc je rappelle que j'étais donc avec Madame Christelle Fichot de l'association Inestimable TND.
Oui.
Et puis avec Madame Annabelle Guichard de La Voix du Harcèlement, qu'on a évoqué aujourd'hui, notamment le rapport entre les enfants qui souffrent des troubles du développement et le harcèlement. Enfin, nous n'avons pas évoqué que ce sujet, mais c'était un des fils conducteurs de cette rencontre. Nous continuerons à nous voir parce que c'est un sujet très important et qu'il en va de l'avenir de nos enfants, mais peut-être même de notre pays, parce que je crois qu'un pays qui s'intéresse à ses enfants et à leur santé, à leur capacité d'évoluer individuellement et collectivement, est un pays qui peut avoir de l'avenir, me semble-t-il, si je peux me permettre.
C'est que ces enfants sont les prochains adultes et qu'il faut, prendre en compte ce qui se passe. Merci.
Très bien. En tout cas, à bientôt. Nous étions sur Shalom Bourgogne dans notre émission Gardien de mon frère. À très bientôt.
Entrevue Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.